Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 12 janvier, les vaccinés de l'an 1, vous entendrez le premier couple de plus de 75 ans hors EHPAD vacciné au CHU de Nancy. Ce matin, les opérations ont démarré en avance, comme vous le révélait RTL. Les maisons de retraite privées proposent d'élargir les injections aussi aux visiteurs. Mais cette course contre la montre ne suffira sans doute pas pour éviter de nouvelles restrictions. L'hypothèse d'un couvre-feu sur tout le territoire dès 18h est privilégiée. Dans RTL Midi aussi, la détresse des étudiants isolés, confinés, ils se sentent oublié. L'un d'entre eux, Nathan Tedga, qui vient d'adresser une lettre ouverte au président de la République, sera l'invité de ce journal. La colère et l'amertume des victimes de l'explosion au gaz de la rue de Trévise à Paris, 2 ans après, rien n'a changé. Et puis le coup de cœur de l'un de nos correspondants à Lens pour un jeune homme moqué sur les réseaux sociaux mais soutenu par ses idoles du RC Lens. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Un petit cocktail hivernal puis neige.
Eh oui, exactement, surtout entre la Normandie et les régions de l'Est. Le gros de la perturbation en fait se trouve là avec de la pluie en continu, de la neige en montagne à basse altitude sur les massifs de l'Est, en quantité importante notamment en Haute-Savoie, donc situation à surveiller. Et puis ça reste chargé avec quelques averses éparses sur l'ouest du pays. Un temps sec par contre avec un ciel légèrement voilé entre les Pyrénées et la Méditerranée. Les températures, elles sont en hausse. Bon, il fait encore 2 degrés à Besançon, c'est froid me direz-vous, mais 12 à Brest cet après-midi, 6 à Metz et Toulouse, 9 à Lille, 10 à Paris comme à Perpignan.
La question du jour sur RTL.fr, les footballeurs français doivent-ils baisser leur salaire pour sauver la Ligue 1? On attend vos arguments 32-10, bonjour Pascal Praud.
Oh, enfin le match.
On refait les salaires.
Ça va nous changer, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment de parler toujours un peu de la même chose. On parlera évidemment des étudiants, vous en avez parlé. Sont-ils les grands oubliés de la crise? Peut-on parler d'une génération sacrifiée? Parole aux étudiants aujourd'hui dans l'émission. Et puis, quel scénario pour les semaines à venir? Vous l'avez dit également, un couvre-feu peut-être à 18h étendu à toute la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes définitivement déprimé en ce début d'année 2021?
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
La lutte contre l'épidémie tourne à la course de vitesse. Vaccination contre mutation du virus. Les personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas en EHPAD pourront être vaccinées dès lundi prochain. Il faut se rendre sur le site santé.fr pour connaître l'adresse du centre le plus proche de chez vous, puis faire une réservation en ligne. Vous aurez ensuite un rendez-vous précis. Mais d'ores et déjà, comme Sophie Orange vous le révélait ce matin sur RTL, eh bien, on vaccine au CHU de Nancy. Dimitri Ramelot, vous êtes sur place et vous avez interrogé un premier couple.
Oui, à la sortie du centre de vaccination, François, 79 ans, est soulagé. La première injection qu'il attendait avec impatience est désormais derrière lui. Pas question d'attendre plus longtemps pour échapper au virus.
J'ai vu qu'il y avait possibilité de s'inscrire par Doctolib. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai inscrit mon épouse et moi-même. J'ai des problèmes cardiaques. Je vais avoir 80 ans cette année. Là, je sais que si j'ai des problèmes avec la Covid, quand on voit le nombre de décès, peut-être des chances quand même de partir aussi.
Et 24 heures avant la date officielle du début de la campagne de vaccination des Nancéens de plus de 75 ans résidant à domicile, quelques chanceux ont donc pu trouver des créneaux et tout est allé très vite pour Evelyne, 75 ans, qui ne pensait pas être vaccinée si rapidement.
Mon mari m'a levé très tôt pour me dire vite, vite, on est inscrit, il faut aller se faire vacciner. Une personne vient vous faire un petit questionnaire de santé et puis après, ben, vous allez voir l'infirmière ou le médecin et vous êtes vacciné et vous attendez un petit quart d'heure et voilà, on est ressorti. Même pas une heure.
Le premier couple de vaccinés de plus de 75 ans doit reprendre rendez-vous dans le même centre dans 3 semaines pour recevoir la deuxième injection.
Dimitri Ramelot et les volontaires sont nombreux. Plus de 2050 personnes avaient pris rendez-vous hier soir sur Doctolib. Du côté des EHPAD, on souhaite aussi accélérer le mouvement en élargissant la vaccination, comme l'explique la déléguée générale du CINERPA, le syndicat de maisons de retraite privées, Florence Arnaise-Maumet.
Le CINERPA mène un petit combat qui est d'étendre la vaccination à tout l'écosystème EHPAD. La cible, c'est uniquement les résidents et les salariés de plus de 50 ans. Donc, on va vacciner 40, 50, 60 personnes, là où on pourrait en vacciner 120. Profitons de l'infrastructure que nous avons mise en place pour doubler le nombre de vacciner. Il faut rappeler que les familles, voire les aidants familiaux, ont souvent plus de 75 ans, sont donc dans la cible. Donc, nous pouvons le faire. Nous pouvons aussi nos animateurs extérieurs, nos animateurs sportifs, nos intervenants extérieurs, psychomotriciens, ergothérapeutes. Nous pourrions vacciner l'ensemble, l'intégralité en quelques semaines. Pour l'instant, ce n'est pas accepté. Les salariés font preuve d'une grande motivation pour aller rapidement vers la vaccination.
Florence Arnaiz-Maumet du CINERPA avec Agathe Landais. Jean Castex réunira le gouvernement en visioconférence à 19h30 pour évoquer les nouvelles restrictions à suivre. Le variant anglais risque de bousculer les chiffres de l'épidémie déjà à la hausse avec les fêtes. Et l'hypothèse d'un couvre-feu avancé à 18h sur tout le territoire est privilégiée, Jacques Serret.
Oui, c'est la mesure qui est de plus en plus probable. Hier soir encore, en petit comité devant l'état-major de la République En Marche, Olivier Véran a formellement évoqué cette hypothèse. Et le ministre de la Santé l'a défendu. Le couvre-feu, ça fonctionne, a-t-il argumenté, se référant aux bons résultats obtenus en octobre suite à sa première mise en place. Mais rien n'est décidé car l'exécutif est aussi dans l'attente des toutes nouvelles recommandations du Conseil scientifique. Selon nos informations, ce document doit parvenir sur les bureaux d'Emmanuel Macron et de Jean Castex cet après-midi. Et puis un autre rapport, cette fois de la Haute Autorité de Santé, très spécifique sur l'efficacité du couvre-feu avancé à 18h, doit également être remis ce soir, au plus tard demain matin au Premier ministre, de précieuses données avant un nouveau conseil de défense sanitaire demain matin à l'Élysée. C'est là, une fois de plus, que les mesures seront actées par le chef de l'État et c'est Jean Castex lui-même qui devrait les annoncer dès jeudi lors d'une conférence de presse.
Le fameux rendez-vous du jeudi, on en a l'habitude désormais. Merci Jacques. Outre-Manche, la situation est extrêmement tendue dans les hôpitaux. On en est à ouvrir des morgues provisoires. En Allemagne, Angela Merkel reconnaît que les prochaines semaines constitueront la phase la plus dure de la pandémie. Deux vaccins ont déjà été autorisés en Europe. Le dossier d'un troisième vient d'arriver auprès de l'Agence européenne du médicament, celui d'AstraZeneca Oxford, déjà autorisé en Angleterre. Une décision pourrait être prise le 29 janvier. Dans un instant, on s'arrête sur la détresse des étudiants isolés et sans perspective.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Un drame humain se joue dans nos universités. Le président de l'université Lyon 3, Éric Carpano, avait choisi ces mots hier pour évoquer la grande détresse des étudiants après la tentative de suicide de l'un d'entre eux dont le pronostic vital est engagé. Au-delà de son acte ultime qui a forcément de nombreuses causes, c'est l'occasion d'évoquer la grande fragilité des étudiants. Depuis presque un an, ils ont passé 10 mois loin des bancs de la faculté et se retrouvent souvent isolés. Bonjour Nathan Tedga. Nathan Tedga ?
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes président de l'Association des étudiants en sciences économiques, sociales et juridiques de Mulhouse et vous venez d'adresser une lettre ouverte au président de la République, la lettre des derniers confinés. Que lui dites-vous ?
Eh bien oui, en effet, avec certains étudiants du campus, notamment en sciences politiques, il y a un constat qui se fait, c'est qu'actuellement, on a l'impression d'être les derniers confinés. Ceux qui devront rester encore à la maison très longtemps, ceux qui ne sont pas assez responsables pour pouvoir retourner en cours, ceux qu'on laisse en fait derrière tout, derrière les bars, derrière les restaurants, bien qu'on soit très sensible aux conditions des autres secteurs, on se demande pourquoi c'est à nous en fait d'assumer partiellement et presque aussi totalement un confinement quasiment total, puisque nous n'avons plus d'espoir, nous ne savons pas ce qu'il en est pour le semestre qui arrive, on ne sait pas quand nous pourrons retourner à l'école. Parce que nous avons envie de retourner à l'école, nous avons envie de suivre les cours, nous avons envie de retrouver nos camarades aussi, nos professeurs. Ce n'est pas un système d'enseignement fiable et viable surtout que d'avoir un écran entre.
Mais vous n'entendez pas l'argument sanitaire ?
En fait, l'argument sanitaire, il est, on l'entend bien évidemment. Je serai le premier à me faire vacciner dès que je pourrai. J'entends qu'il faut soutenir et puis protéger nos concitoyens. Mais l'argument sanitaire, il est valable dans ce sens-là. Mais l'argument psychologique et sanitaire aussi, du coup, il est valable pour nous aussi, puisque une grande détresse psychologique arrive aux étudiants. On est en train de faire une génération qui est sacrifiée. C'est le mot qu'on peut utiliser. Beaucoup de décrochage. On l'a vu très récemment, je ne souhaite pas instrumentaliser le geste de ma camarade à Lyon 3.
Mais
c'est des situations qui arrivent et qui arriveront peut-être.
Mais justement, Nathan, vous êtes en troisième année et vous êtes aussi tuteur d'étudiants. Donc, que vous disent les plus jeunes ?
En fait, c'est, j'ai l'impression de ressentir ce que j'ai ressenti en première année, mais dupliqué. C'est-à-dire qu'il y a toute l'incertitude, tout le côté, on ne sait pas si on est fait pour ça. Tout ce questionnement lié à la difficulté de la première année, dupliqué par le virus. On n'a pas de groupe d'étudiants ensemble, on peut travailler ensemble, c'est compliqué. Et ce que eux nous disent, c'est pas fait pour moi, j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus, j'ai envie de faire autre chose. Parfois, c'est motivé par des résultats, c'est motivé par une méthode parfois qui n'est pas là, mais il y a également le contexte sanitaire qui fausse en fait tous les résultats et qui, j'ai envie de dire, ne donne pas justice au travail que les étudiants fournissent. Donc j'essaie de les rassurer comme je peux, mes tutorés, j'essaie de leur dire que il faut pas se simplement prendre pour base ce semestre-là, il faut persévérer si c'est ce qu'ils veulent faire de leur vie plus tard. Mmh. Et voilà.
Il y a le doute qui est inhérent à la situation. De toute façon, quand on est en première année, souvent on doute du choix qu'on vient de faire. Hein. Mais là, évidemment, il est surmultiplié, on l'entend bien. Puis il y a aussi la solitude, j'imagine. C'est difficile. Avant, on partage, on échange, on fait des activités en commun. Et là, chacun se retrouve ou claquemuré dans sa chambre d'étudiant ou à être de retour chez ses parents.
C'est exactement ça. Et moi-même, je n'ai pris la mesure de cette solitude qu'avec ce deuxième confinement, où on se rend compte que entre le couvre-feu et le reconfinement qu'on a eu, on ne fait plus que ça. Du matin au soir, on est devant notre ordinateur, soit en visioconférence, soit à devoir travailler nos cours. On va se coucher à des heures parfois très tardives pour se réveiller le lendemain et recommencer. On ne fait plus que ça.
Oui, c'est un jour sans fin.
On fait exactement ça. On fait plus de sport ni rien du tout. On est seul.
Et comment ça se passe dans vos relations avec les profs? Parce que certains disent qu'ils font beaucoup de travail psychologique, de soutien psychologique. Vous avez quand même des contacts avec eux? Vous arrivez à discuter en privé, j'allais dire, avec eux?
Alors, nous, on a la chance à Meuse d'avoir une petite université, une université à taille humaine. Donc, c'est bien évidemment plus facile et privilégié chez nous. Mais les professeurs sont également submergés puisque le nombre d'étudiants qui les sollicitent est plus conséquent. Donc, c'est pas évident pour eux de répondre à tout le monde. Ils font cet effort-là et eux-mêmes, je pense, et je l'en suis sûr, ont des difficultés parce que c'est une façon différente de faire leur métier. Ils sont pas préparés à ça. Personne ne l'a été d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Ils ont pas forcément non plus le recul nécessaire. Ils ont les décisions qui arrivent au compte-gouttes. Ils naviguent à vue parfois et les conséquences s'en reportent sur nous également. Et on ne peut que les comprendre parce que le problème vient de plus haut. Et aujourd'hui, on veut essayer d'interpeller plus haut parce que c'est plus haut que ça se décide.
Interpeller plus haut pour être déconfiné définitivement et pouvoir reprendre une vie normale, Nathan?
Alors, une vie normale, je ne serais pas irresponsable au point de dire ça, j'entends bien, mais un entre-deux, des garanties quant au nombre d'étudiants qui peuvent rejoindre les amphithéâtres, un soutien, il y a des postes de tuteurs qui ont été créés encore ce mois-ci. Continuer, amplifier ce type de mesures, c'est ce que nous demandons, et un retour sur place, une autorisation, voilà.
Voilà, merci beaucoup. Merci Nathan Tedga d'être intervenu sur RTL et d'avoir témoigné des
merci
difficultés de toute cette génération étudiante. Merci beaucoup. Il y a 2 ans, jour pour jour, une très forte explosion provoquée par une fuite de gaz avait soufflé la rue de Trévise dans le 9e arrondissement de Paris, faisant 4 morts, dont 2 pompiers, 66 blessés et 400 personnes sinistrées. Ce matin, un rassemblement s'est tenu sur les lieux du drame, entre hommage et colère, Anne Le Hénaff, car rien n'a bougé pour les victimes.
Ils étaient plusieurs dizaines sous la bruine pour un dépôt de gerbes et un lâcher de colombes frigorifiées au pied de l'immeuble toujours éventré. Jack et Elisabeth vivaient au 6e étage.
Là où il y a un morceau de rideau qui pend encore, on n'aime pas tellement revenir.
On plaide pour un fonds d'indemnisation, ça serait très important. On est dans un vide. Hein.
La mère de Pierre a 92 ans.
Ça fait 57 ans qu'elle vivait là. J'espère de tout cœur qu'en décembre 2023, elle sera là et qu'elle pourra réintégrer son immeuble. Elle fait preuve d'une dignité bouleversante. Et c'est vrai qu'autour de nous, on a des gens pas très dignes. Côté assurance, c'est quand même plutôt un désastre.
Car dans ce dossier, tout le monde se renvoie un peu la balle. L'avocate Elsa Crozatier défend une 20aine de victimes.
Aujourd'hui, elles n'ont perçu que des provisions, c'est-à-dire une avance. Mais c'est ridicule par rapport à ce qu'elles pourront percevoir ultérieurement. Pour avancer, il faut qu'il y ait tous les acteurs qui signent un accord cadre pour indemniser ensemble les victimes. Ils répartiront après, en fonction de leurs responsabilités, les dommages.
La mairie de Paris, elle, souhaite plutôt une convention nationale d'indemnisation. Pour cela, il faut une loi pour la mettre en place. Elle l'a demandé au gouvernement en novembre dernier. Ça va durer.
Anne Le Hénaff, la disparition inquiétante d'une jeune étudiante, Diara Sow, à 20 ans. Elle est en classe prépa au prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris en physique-chimie. Excellente élève, elle vise Polytechnique. Elle est soutenue par le Sénégal, dont elle avait été élue meilleure élève 2 années de suite. La jeune femme n'est pas réapparue depuis la fin des vacances de Noël, Guillaume Chiez.
Oui, Diara Sow a passé le nouvel an avec une amie à Toulouse, puis elle est remontée à Paris. Elle a fait sa valise et quitté sa chambre d'étudiant le 4 janvier. Et depuis, plus aucune nouvelle. Aujourd'hui, les enquêteurs se veulent rassurer. La piste criminelle n'est pas totalement exclue, mais celle de la disparition volontaire est plus que privilégiée. La jeune femme, arrivée en France il y a un an et demi, est une icône au Sénégal, filleule d'un ministre, symbole de la réussite scolaire. Ses parents, son entourage veulent à tout prix qu'elle intègre la prestigieuse école polytechnique. Une pression de plus en plus lourde qui aurait pu la pousser à disparaître volontairement un temps pour y échapper. Aujourd'hui, les enquêteurs de la PJ parisienne souhaitent simplement entrer en contact avec elle, être sûr que tout va bien, car toute personne majeure a le droit de disparaître, de couper tout lien avec son entourage.
Donc c'est plus une absence inquiétante qu'une disparition inquiétante.
Exactement.
Merci Guillaume. Dans un instant, on se prépare à une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Une troisième hausse des prix de l'électricité attendue. Le tarif réglementé pourrait augmenter d'1,73% au 1er février, ce qui représenterait 16 euros par an sur la facture d'un ménage. Au total, les prix de l'électricité ont bondi de 50% sur 10 ans. Pourquoi une telle inflation, Éric Vanier ?
Alors, sur la durée, il y a des facteurs structurels. Les centrales nucléaires vieillissent, les coûts de maintenance sont plus lourds, il faut provisionner pour envisager leur remplacement et parallèlement, il faut subventionner la montée en puissance des énergies nouvelles comme l'éolien et le solaire. Et donc, en 10 ans, effectivement, la facture annuelle moyenne d'un foyer a bondi de 500 euros. Et puis, il y a les facteurs conjoncturels. Les hausses que nous allons subir cette année sont essentiellement liées à la crise sanitaire et économique actuelle. La loi dit que le tarif réglementé du kilowattheure doit répercuter, refléter tous les coûts de la production à la commercialisation. À cause des deux confinements, EDF a pris du retard dans les travaux d'entretien de ses centrales nucléaires. Certains réacteurs n'ont pas pu redémarrer dans les délais prévus, ce qui crée des tensions sur le marché de gros de l'électricité. Les prix flambent car les fournisseurs, par précaution et par peur de manquer, commandent et achètent massivement des capacités. Les opérateurs sont confrontés aussi à un manque à gagner dû aux factures impayées des particuliers, mais aussi et surtout des professionnels. Près d'une entreprise sur 5 ces derniers mois n'a pas pu régler sa facture d'électricité en temps et en heure. Ça renchérit les coûts, il faut compenser et c'est un peu tout le monde qui paiera.
Merci Eric Vanier. Le Covid qui a coûté cher aussi à Renault, le constructeur automobile a vu ses ventes baisser de plus de 20% en 2020 et de près de 26% en Europe. Le groupe change de stratégie et mise sur la profitabilité aux dépens des volumes de ventes. Et Renault se la joue retour vers le futur en présentant une R5 et une 4L électrique. Comme chaque jour dans RTL Midi, le coup de cœur de nos correspondants en région pour un personnage, une histoire, une initiative locale. Aujourd'hui, nous partons à Lens retrouver Emmanuel Michel. Vous avez été ému par l'histoire de Thibaut. C'est un jeune homme atteint de surdité. Après avoir été harcelé sur les réseaux sociaux, Thibaut est devenu en quelque sorte la mascotte du RC Lens.
Oui, Christelle, Thibaut a 20 ans et c'est un fervent supporter du club de Lens. Sur sa chaîne YouTube, il poste régulièrement des vidéos pour débriefer les matchs de son club préféré.
Salut à tous, c'est Thibaut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief entre le Racing de Lens et Montpellier, héros.
Seulement voilà, Thibaut est moqué sur les réseaux sociaux à cause de son handicap. Le 7 janvier dernier, il prend la parole sur Twitter et dénonce le harcèlement qu'il subit.
J'ai décidé de parler avec vous aux gens qui sont impolis, qui se prennent harcèlement pour moi, qui se foutent de ma gueule.
Et je n'ai pas été le seul à être touché par cette vidéo puisqu'elle a été visionnée plus d'un million de fois et lui a valu des milliers de messages de soutien et d'encouragement, dont l'un qui lui tient particulièrement à cœur, celui de Florian Sotoka, son joueur préféré, attaquant du RC Lens.
Salut Thibaut, c'est Flo Sotoka, voilà, j'ai vu ta vidéo, je te souhaite beaucoup de courage, n'écoute pas les autres, voilà, continue à faire tes vidéos, continue à aimer le club du Racing Club de Lens et je te dis à bientôt à Bollard.
Promesse tenue, puisque le club de Lens a invité Thibaut le 9 janvier dernier pour remettre le ballon aux arbitres lors du match contre Strasbourg. Un rêve devenu réalité pour le jeune supporter.
Belle histoire, merci Emmanuel Michel. 65 jours de mer pour les skippers du Vendée Globe et une dizaine de bateaux se retrouvent maintenant regroupés au large du Brésil, du côté de Rio, dans la remontée de l'Atlantique. Ils sont en mode régate. Le classement n'arrête pas de bouger. Charlie Dalin a finalement repris la tête hier soir. Il est juste devant Damien Seguin qui navigue avec un seul bras. Et on retrouve Pascal Praud avec qui vous allez dialoguer dans 5 minutes. Pascal.
Dire à un étudiant qui a 20 ans qu'en 1914, les gens de 20 ans étaient au front, qu'en 1940, ils étaient toujours au front, ou qu'en 1955-56, ils étaient en Algérie, je ne suis pas sûr que ça les aide beaucoup. Effectivement, c'est pas rigolo d'avoir 20 ans aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et on connaît tous.
C'est la phrase d'Emmanuel Macron.
Voilà. Mais c'est vrai surtout. C'est vrai parce que alors là, pour les entendre et on va les entendre tout à l'heure durant l'émission, il y a un vrai souci, c'est-à-dire que ils peuvent pas travailler ou mal travailler. Ils perdent le lien social. C'est un âge effectivement où on se souvient tous de nos années d'étudiantes. Combien elles ont été marquantes. Il n'y avait pas que le travail, précisément. Il y avait autre chose qui se jouait dans ces années-là.
C'était même surtout le autre chose, j'allais dire.
Mais c'est vrai. Mais c'est un tout, forcément. Oui, donc, vous leur enlevez une partie de leur jeunesse. Et je pense qu'ils vont témoigner tout à l'heure. Et que j'ai envie vraiment qu'on parle des étudiants. Parce que ce sont peut-être les grands oubliés, c'est vrai, de cette crise. On pourra évidemment parler... aussi, on l'a dit, du scénario à venir. Et puis, des footballeurs.
Oui,
footballeurs. Vous savez combien c'est le salaire moyen d'un footballeur en Ligue 1?
Non.
94 000 euros.
Ah oui, d'accord.
Pas mal.
Me mettre au foot.
Vous êtes en forme.
Très.
Neymar, c'est 3,6 millions par mois.
Oui.
3,6 millions par mois. C'est Neymar. Mmh. Mbappé, c'est 2,1 millions par mois. Mmh. 2,1 millions par mois. Et en moyenne, hein, 100 000 euros en moyenne.
100 000 euros en moyenne, oui, c'est pas mal.
Donc c'est pas mal.
Bon, après, on dira toujours que les carrières sont courtes. Bah etc.,
oui,
etc.
Mais
elles
sont.
Bon, allez.
Oui.
On y viendra après 3 heures parce qu'on va être en retard.
Non.
On va être en retard sinon.
Fichtre.
Voilà.
À tout de suite.
Peggy Broche, on vous retrouve
Christelle.
Pour la météo. Cette fois, ça y est, le mercure du thermomètre bouge enfin.
Oui, enfin. Alors même si c'est vrai que ça reste frais par endroit, mais ailleurs les températures sont au-dessus des normales. 12 degrés pour la maximale à Rennes, 11 à Biarritz et Toulon, 10 à La Rochelle comme à Rouen et Paris, 9 degrés à Bourges, 7 à Auch et Montélimar, 5 à Strasbourg, 4 à Lyon, ça commence à baisser, et puis on a 0 cet après-midi à Grenoble. Alors côté ciel, nuages, pluie, neige et vent, la totale sur les trois quarts du pays. Des pluies en continu entre la Normandie et les régions de l'Est, de la neige à basse altitude, voire en plaine, des 300-400 mètres sur les reliefs de l'Est, et puis surtout, on attend une quantité de neige importante, notamment sur la Haute-Savoie, jusqu'à 60 cm entre aujourd'hui et demain. Situation à surveiller. Surtout l'ouest du pays, ça reste gris et humide, avec quelques averses localisées. Les éclaircies reviennent quand même par le nord sur le littoral. Alors c'est vraiment très peu, mais bon, entre Calais et Dunkerque. Et puis on a un ciel lumineux encore, et légèrement voilé entre les Pyrénées et la Méditerranée.
Bon, et on se dépêche d'en profiter, parce que de nouvelles perturbations en approchent.
Oui, elles vont s'enchaîner. Les perturbations, on va conserver, c'est vrai, demain un ciel gris, de la pluie toute la journée, notamment entre le nord, l'Île-de-France et les Alpes du Nord. Petite amélioration sur la façade atlantique avec un temps sec et quelques éclaircies, les éclaircies plus larges l'après-midi. Toujours un ciel bien lumineux entre les Pyrénées et la Méditerranée avec un vent fort cette fois. Attention, du coup, avec le redout au risque d'avalanche sur les Alpes du Nord. Et puis on attend aussi des coulées de neige possibles sur les Vosges et le Jura. Les températures, elles vont remonter partout, hein, quasiment plus de gelée le matin. Et des maximales entre 6 à Strasbourg, 15 à Perpignan demain, 12 à Bordeaux et 11 à Paris.
Merci Peggy. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL. Bon appétit si vous êtes à table.
RTL.
13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Les étudiants sont à l'honneur aujourd'hui. On va les écouter parce qu'on ne les écoute pas assez. Bonjour Victoire.
Bonjour Pascal.
Vous en avez marre?
Oui, c'est
bon. Bon, j'ai résumé un peu succinctement, vous allez nous dire pourquoi tout de suite. Christelle, le rappel des titres.
400 000 personnes vaccinées à la fin de la semaine, 1 million fin janvier, c'est l'objectif que se fixe le gouvernement. Les personnes âgées de plus de 75 ans hors EHPAD pourront se faire vacciner à partir de lundi prochain, mais les opérations ont déjà démarré ce matin au CHU de Nancy. Jean Castex réunit en fin d'après-midi le gouvernement en visioconférence. Parmi les hypothèses envisagées, la plus probable, c'est un couvre-feu étendu à tout le territoire à partir de 18h. Et le calendrier sportif est bousculé. Les Coupes d'Europe de rugby sont suspendues au moins jusqu'à début février. 15 nouveaux cas de Covid ont été recensés au club de La Rochelle. En Formule 1, la saison ne commencera qu'à Bahreïn fin mars et pas en Australie. Quatrième jour de grève d'affilée au journal L'Équipe. Syndicats et direction se réunissent cet après-midi pour évoquer le plan social qui prévoit de supprimer une cinquantaine d'emplois. Le journal emploie 350 personnes.
Les auditeurs ont la parole.